OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Alors, revenu jusqu'à l'heure actuelle, on a regardé, surtout dans les leçons précédentes depuis le début, le rôle de la Bible dans nos vies, qui est de la lire, de l'écouter, de l'étudier, de la mémoriser et de la méditer. Quand on regarde l'ensemble des choses que la Bible nous commande, quand on regarde l'ensemble des choses qu'on fait, des fois on voit qu'il y a comme un petit fossé entre les deux. Et quand on parle de discipline spirituelle, ils n'appellent pas ça une discipline pour rien. C'est parce que parfois, pour décider de faire quelque chose que la Bible nous commande et qu'on se rend compte qu'on ne fait pas, c'est sûr qu'il faut prendre une décision dans notre esprit, tout commence là. Mais on se rend compte aussi que bien souvent, si on se fie uniquement sur notre force pour instaurer une nouvelle habitude dans nos vies, on sait que souvent, ça fait pas plus qu'une coupe de roue, puis ça flouche, comme on dit. Alors, si on se rend compte avec tout ce qu'on étudie depuis quelques semaines, qu'il y a des choses qu'on fait pas, pensons pas que les choses vont venir tout seules. Il faut les demander, puis il faut implorer le Seigneur de nous aider. Et lui est capable de changer des choses. On va reviser rapidement, parce qu'on est rendu à notre troisième leçon sur la discipline de l'adoration. Pourquoi elle est extrêmement importante? Parce qu'on avait vu au début que l'adoration, c'est pas uniquement le fait d'avoir un culte personnel, ou un culte de famille, ou un culte en église. C'est beaucoup plus large que ça. Dans le fond, l'adoration, c'est quand Dieu nous commande quelque chose, dès qu'on obéit, on est en adoration. Et la Bible nous commande tellement de choses dans notre vie que dès qu'on obéit, plus on devient obéissant, meilleur on est des adorateurs. Mais ça n'enlève pas le fait que Dieu nous demande d'adorer individuellement, d'avoir un temps individuel devant lui, de le faire aussi quand on est en couple. De le faire en couple, et quand on est en famille, de le faire en famille, et quand on est membre d'une église, comme de raison, ça devrait être une priorité d'assister à tous nos cultes sans aucune exception. Ça, c'est ma conviction la plus profonde. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu a voulu qu'on fasse ensemble, et plus on le fait, plus on est dans son obéissance, plus on profite. Alors, on avait vu un petit peu, la première idée qu'on avait regardée, c'est que l'adoration, c'est à la fois un devoir et à la fois un délice. Dans ce sens que, ce matin, j'ai reçu ma petite brochure je suis abonné à Free Grace Broadcasters, une petite brochure d'à peu près 60 pages aux alentours, qui, à chaque mois, ça sort une fois par mois, et c'est toujours sur un thème différent. Et je regardais le thème d'aujourd'hui, c'était très important, très, très intéressant. C'est celui de la communion avec Dieu. Et je lisais qu'est-ce que le présentateur parlait du numéro. Et il disait, c'est important dans une église qu'on ait une bonne confession de foi, qu'on prêche la vérité, qu'on garde la vérité. Mais il dit une chose qui est encore plus importante que ça, c'est la communion avec Dieu. Puis, je pense, personnellement, depuis que je suis chrétien, j'ai observé, dans ma propre vie et dans la vie de ceux que je connais aussi, qu'il y a un manque à ce niveau-là, de la communion avec Dieu. Prendre un temps où on médite la parole et où on reste suffisamment en présence avec lui, où on lui parle et on le laisse nous parler aussi. C'est ça qui est la communion avec Dieu. C'est pas si pratiqué que ça de nos jours. On vit à une époque où tout le monde est pressé, et bien souvent, les gens ne font pas ça, et en ne faisant pas ça, ils se privent eux-mêmes d'une très, très grande bénédiction. Parce que le Seigneur bénit ceux qui font ça. Et quand on dit, laissez Dieu nous parler et parler à Dieu, c'est une réalité, là. C'est pas juste des mots en l'air, là. Dieu, quand on parle de communion, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde que Dieu. Il nous parle, nous lui parlons. Et il y aurait tellement de choses à dire juste sur ce sujet-là. Mais c'est rien que pour dire que l'adoration, c'est un devoir parce que Dieu nous commande C'est pas si ça te tente, fallait, si ça te tente pas, fallait pas. C'est que c'est un commandement de Dieu. Si tu le fais pas, tu es en péché. Ensuite, l'adoration, on l'avait défini comme le mot proskuneo, qui est le verbe se prosterner, embrasser, et l'idée de la crainte, c'est vraiment d'être en révérence face à Dieu et d'obéir à tout ce qu'il nous commande. Agir pieusement, autrement dit. On avait vu que l'adoration, on l'avait définie. On avait vu que Jésus lui avait dit lui-même dans Matthieu 4, verset 10. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, on a vu aussi qu'il y a différentes façons d'adorer. On peut adorer à travers la création. Justement, depuis quelques jours, avant l'hiver, on passe pas devant le lac. On va s'asseoir devant le lac, je sais pas tout à fait assez chaud. Mais depuis quelque temps, il n'y a pas une journée qu'on va pas s'asseoir une demi-heure devant le lac. Et c'est, il y a pas, juste déjà, Lucie, il y a pas une fois qu'on s'assoit, c'est à la fois toujours pareil et à la fois jamais pareil. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la création de Dieu. On ne se tanne pas, les nuages ne sont pas les mêmes, le soleil n'est pas le même, le petit frimois sur le dessus de l'eau n'est pas les mêmes, les vagues chantent. C'est un sujet d'adoration, parce qu'on reconnaît la grandeur de notre Créateur à travers toutes ces choses-là. Donc les couchers de soleil, les montagnes, les fleurs, surtout l'été, l'hiver aussi, il y a des immenses beaux paysages, mais l'été, c'est une façon particulière où on voit la beauté du Seigneur à travers sa création. On l'a aussi, on peut adorer à travers la parole de Dieu. De plus en plus conscient de ça en vieillissant, parce qu'il y a des fois qu'on lit la parole et on a vraiment l'idée que Dieu nous parle. Et pas tout le temps. Des fois, on dirait qu'on lit ça, puis on dirait que ça ne nous touche pas. C'est un fait. On ne peut pas dire le contraire, là. Ça fait assez longtemps que je suis chrétien pour avoir connu les deux. On dirait que des fois, on lit un petit peu mécaniquement, puis qu'on dirait qu'on ne comprend pas grand-chose de ce qu'il dit. Mais il y a d'autres fois qu'on lit un passage et ça prend une luminosité, une beauté, une profondeur, une richesse. Et ça, quand ça nous arrive, c'est très intéressant. Alors là-dedans, ça naît de l'adoration. Dieu se révèle à nous. Il nous fait voir, par exemple, un aspect ou un autre de la personne ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Quand on lit un livre comme... comment ça s'appelle, de Christ, là,
Connaître Christ.
Connaître Christ. Quelqu'un qui lit ça, puis que durant toute sa lecture, il adore pas une fois. C'est parce qu'il y a tellement de choses adorables à connaître sur le Seigneur Jésus-Christ, juste dans ce livre-là. Mais ça, c'est un livre. Mais dans les Écritures elles-mêmes, il y a tellement de choses. Moi, combien de fois, par exemple, un de mes livres préférés, les Écritures, moi, c'est les Psaumes. Si je suis découragé, la meilleure façon pour moi de me remonter le moral, lis les Psaumes. Surtout les Psaumes de louange. Où mener notre âme, on dirait qu'elle s'élève en même temps qu'on lit, et c'est encourageant. Et il y a plein d'autres choses. C'est sûr qu'il n'y a pas juste les psaumes, ben, ça peut être n'importe quel autre livre. On peut recevoir des encouragements par n'importe quel autre livre. Mais à travers la parole de Dieu. Et comme on mentionnait tantôt, la parole de Dieu, il y a au moins cinq devoirs que la Bible nous demande de faire avec. Et si on est honnête, si on s'examine comme il faut, est-ce qu'on les fait? Quand on dit lire la Bible, okay, on va dire, OK, je la lis. Mais est-ce que tu la lis tous les jours? Oh, là, déjà, il y a des manquements, là. Ensuite, est-ce que tu la lis en croyant que Dieu te parle et qu'il veut changer quelque chose en toi? Tu sais, il y a des manières de lire la Bible. Quand on a fait notre leçon sur la... On a vu ça. Lire, écouter. Écouter la Bible. Écouter quand quelqu'un parle de Jésus, parle de Dieu, parle du salut, ou parle de quoi que ce soit qui vient de la Bible. On se devrait l'écouter avec une attention. C'est Dieu qui nous parle. Moi, je sais par expérience, je n'ai pas toujours été assis dans une salle à écouter des sermons en étant dans l'attitude que c'est Dieu qui me parle et qui veut changer quelque chose en moi, là. Des fois, l'esprit nous passe toutes les bords, mais c'est pas de même qu'on se devrait de l'écouter. Faut prier pour ça. Des fois, je dis le dimanche, si vous voulez avoir un bon culte du dimanche, il faut se préparer dans la semaine. Il faut demander au Seigneur d'être avec nous, de nous ouvrir l'intelligence, l'esprit. Donc, l'étudier, oh mon Dieu, ça, je peux vous le dire, il y a énormément de manquements dans l'Église de Dieu concernant l'étude de la parole. Premièrement, on ne le fait pas, puis deuxièmement, on ne sait pas comment faire. Peut-être qu'il y a un manquement du côté de nous autres qui enseignent pas assez comment le faire. Mémoriser, aussi, pas fort. Je ne suis pas fort dans l'Église de Dieu. Il y en a qui sont très forts, mais il y en a d'autres que c'est très, très faible, comme on dit. Et la méditer. À travers la personne de Jésus-Christ. Bien sûr, plus on va connaître Jésus-Christ, plus on va étudier l'œuvre de Christ, la personne de Christ. Le dernier livre que j'ai reçu, là, c'est Une brique, ça dépaisse. C'est juste sur Christ. Juste sur Christ. Et quand tu regardes, c'est le gars qui a fait ça, là, il a étudié toute sa vie. Et il a enseigné dans des écoles bibliques sur Christ toute sa vie. Et ça, cette brique-là, là, c'est le fruit de son travail. Il y a tellement de richesses là-dedans que ça en est presque incroyable. Je vous le dis, là, c'est... Et à quelque part, tout ça, c'est à notre disposition. Comment ça se fait que c'est si peu étudié? C'est ça la grande question. On serait censé d'être en amour avec notre Dieu, d'être en amour avec le Christ, avec qui il est, juste apprendre qui il est, tu l'as pour le restant de tes jours, et apprendre qu'est-ce qu'il a fait, l'apprendre correctement, ça aussi tu l'as pour le restant de tes jours. Alors, à travers la personne de Christ, à travers les hymnes et les cantiques spirituels, l'autre jour, on est allé à Saint-Jérôme, et quand on est un gros groupe, là, l'autre jour, on devait être quelque chose comme 75-80, là, peut-être plus, là. Et que tout le monde chante en même temps et que ça monte, là. Des fois, il y a des chants qui sont choisis, là. Les paroles viennent nous toucher au cœur. Des fois, moi, personnellement, je sais qu'il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul, parce que je venais jaser avec d'autres, là. Des fois, on trouve les paroles tellement belles. On étouffe presque de gratitude, de joie. On comprend ce qu'on chante. Et ça devient de l'adoration. Parce que quand on agit comme ça. Donc, à travers les hymnes, les cantiques spirituels, et aussi, si ça se produit pas, ça devrait, à travers l'écoute des sermons. L'adoration maintenant, ses exigences. On avait dit que pour... pouvoir adorer, il faut que tu sois né de nouveau, bien entendu. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est de la fausse adoration. Parce que le Seigneur a dit qu'il fallait adorer en esprit et en vérité. Donc, il faut que tu sois régénéré par le Saint-Esprit. Et en vérité aussi, on avait vu qu'il faut adorer selon ce que les Écritures nous commandent. Et de plus en plus, j'expliquais que dans les cultes, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, à travers les États-Unis, parce qu'on est surtout au courant de ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on y est proche, et on a beaucoup d'exemples qui nous montrent à la télévision comment c'est... Moi, je peux vous dire, enfin, j'en ai vu là, des affaires, c'est plus de l'adoration, ça. C'est de la clownerie, c'est du show business, c'est toutes sortes de choses. Alors, quand la Bible nous dit qu'il faut adorer en esprit, pour avoir l'Esprit de Dieu d'abord. Et en vérité, ça veut dire que on se doit d'être encadré dans notre manière d'adorer. Parce qu'un culte, ça devrait comprendre automatiquement tout le temps de la parole de Dieu. Ça devrait comprendre tout le temps des louanges, des chants. Ça devrait comprendre... On essaie de le faire le plus correctement possible, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a un dérapage au niveau des églises nord-américaine sur ce côté-là. Pas dans tous les milieux, mais dans certains milieux en particulier. Faut faire attention. Faut pas penser que ces choses-là nous influenceront jamais, que ça rentrera jamais dans notre milieu. Faut pas penser ça. Faut garder l'œil ouvert et prier le Seigneur d'aller chercher notre manière d'adorer dans les Écritures. Si on ne fait pas ça, on risque beaucoup. Donc, l'adoration telle que révélée dans la Bible. Ce qu'on appelle, moi, ce que j'aime des baptistes réformés, c'est qu'on est tous, on croit au principe qu'on appelle le régulateur. Qu'est-ce que c'est le principe régulateur? C'est tout simplement que notre manière d'adorer, on doit aller chercher une autorisation des Écritures. Comme par exemple, disons que vous allez dans une église et la parole de Dieu est même plus là. C'est juste un show de la musique. Ben moi, me dire une chose, si j'étais dans une église comme ça, je m'empresserais de sortir de là. Parce que le principe régulateur, ça veut dire, va chercher des Écritures, comment tu dois adorer, et fais-le tel que ça t'est demandé. On avait vu aussi qu'il existe deux sortes d'adoration, la publique et la privée. La privée, on serait censé de faire un culte personnel tous les jours. Ça, je le sais, par expérience, qu'on ne le fait pas tous les jours et que beaucoup de chrétiens ne le font pas tous les jours non plus. On ne prend pas le temps d'être avec Dieu, de prendre un moment avec lui tous les jours. Et c'est pas bon, là, pour ton âme, c'est sûr. Donc, il y a de l'adoration privée et il y a dans la privée, il y a deux sortes. Il y a notre personnel et il y a aussi celle qui est plus qu'une personne. Quand on est en couple, ça devrait faire ton culte, toi et ta femme, ensemble, en plus de celui que tu fais personnel. Puis si tu es une famille, ça devrait être toi, ton épouse et tous tes enfants. Et tous les jours. Puis si vous regardez dans l'ensemble des églises aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est ça qui se passe. Alors, c'est pas pour rien que les chrétiens sont faibles, parce qu'ils font pas ce qu'ils devraient faire. Donc, l'adoration privée, en individuel et en famille. Et on avait vu que plusieurs auteurs puritains avançaient l'idée, et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'ils disent, ils disent que le dimanche, on n'adore pas si on n'a pas adoré dans la semaine. Voyez-vous ce que ça veut être en train de te dire? C'est en train de te dire que par observation, ils se sont rendus compte que si tu ne donnes pas un temps au Seigneur, à tous les jours, dans ta vie privée, tu vas arriver le dimanche, tu ne seras pas prêt. Parce que si tu es habitué d'adorer tous les jours, quand tu vas arriver le dimanche, ça va être une continuation. Ça va être comme si ça serait la cerise sur le Sunday. Mais pour qu'il y ait une cerise sur le Sunday, il faut qu'il y ait un Sunday. Alors, c'est ça. Public, l'adoration publique, bien entendu, elle se fait en église. Hébreux 10, 25, comme je l'ai entendu souvent. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu t'approches de la fin, plus ça va être nécessaire que tu fasses ça. Et on voit dans les églises, demandez à n'importe quel pasteur de l'association, voir si les gens sont tous à leur culte le dimanche. Vous allez voir que vous allez être surpris. Ça, c'est un manquement grave, là. Parce que aller à ton culte le dimanche, là, c'est pas « Ah, ben, matin, ça me tente, moi, y aller. » C'est un commandement de Dieu. Dieu te commande quelque chose, puis toi, tu décides de pas y aller parce qu'il faut que tu y ailles à la pêche, ou tu ailles jouer au hockey, faut que tu ailles... En tout cas, la liste est très longue, les excuses, là. Mais il reste qu'on n'a pas d'excuse de ne pas être à notre culte le dimanche, à moins d'être malade. On était rendu à l'adoration, son développement. Autrement dit, quand on regarde tous les aspects de l'adoration, est-ce qu'on peut développer? Je pense que on peut le développer par la pratique quotidienne de l'adoration privée et familiale. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent A.W. Tozer, un auteur américain très connu, qui est très influent aux États-Unis, il a écrit je ne sais pas combien de livres, dont plusieurs sur le sujet de l'adoration. Voici ce qu'il dit sur ce sujet de l'adoration, le sujet de prendre un temps d'adoration personnelle à tous les jours. Il dit, si vous n'adorez pas Dieu, Sept jours par semaine, vous ne l'adorerez pas un jour par semaine. Oui, il fait un lien direct entre le devoir qu'on a d'adorer Dieu à tous les jours, parce que c'est vrai que le dimanche, ça va être comme une continuation. Sinon, lui, il va loin, il dit, si vous n'adorez pas Dieu sept jours par semaine, vous ne l'adorerez pas un jour par semaine. Autrement dit, ça a un effet sur ton adoration du dimanche. Comment on peut changer ces choses-là si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie au niveau de l'adoration? Je pense que ça vient de implorer le secours du Seigneur. Il faut demander. Il n'y a rien que lui qui est capable de changer des choses. Parce que on le sait, on est rempli de bonnes intentions. Souvent, il y a l'expression, tu sais, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a des bonnes intentions, on veut faire ce que Dieu, mais on connaît notre faiblesse. Le Seigneur nous dit, la chair est faible. Alors, on a besoin de l'aide de Dieu lui-même pour instaurer de nouvelles habitudes qu'on se doit d'instaurer dans notre vie. On va lire Apocalypse 4, versets 8 à 11. Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessaient, jour et nuit, de dire, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Alors, dans le ciel, ça adore. On va adorer. Si on adore ici, c'est boiteux, mais qu'on arrive l'autre bord, il n'y aura plus de boiteur. On va adorer la parfaite adoration. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer lors d'un culte. Lorsqu'un chrétien s'ennuie lors d'un culte d'adoration, le problème, c'est lui ou elle, et non pas l'objet de l'adoration, qui est Dieu lui-même. Parce que l'objet de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Puis si tu t'ennuies pendant que tu es en train d'adorer Dieu, ça révèle que c'est toi qui as un problème, mais ce n'est pas Dieu. Le Seigneur est digne d'adoration et nous lui devons une adoration consciente, joyeuse, de tout notre cœur, et exalté. Exalté, ça veut dire que tu l'as fait monter le plus haut que tu peux dans ton esprit, parce que le Seigneur est tellement digne d'adoration puis de louange qu'on n'en a pas même une idée. On le croit parce que les Écritures le disent, là, mais il est tellement digne. Alors, quand on parle d'une adoration consciente, joyeuse, de tout notre cœur et exalté, ce n'est que lorsqu'on commence à adorer sérieusement, quotidiennement, et authentiquement que nous commençons à croître dans le Seigneur. C'est intéressant comme phrase. Hein? Trois applications. Apprenons ce qu'est la véritable adoration biblique, sa nature, son étendue, ses exigences, ses déguisements, et sa nécessité. Deuxième application, implorons le Seigneur de nous sonder et de nous indiquer les lacunes et les manquements de notre vie d'adoration, que ce soit dans notre adoration privée personnelle, dans notre adoration de couple ou familiale, ou dans notre adoration à l'église locale, de nos soirées de prière et des cultes du dimanche. Et quand on demande au Seigneur de nous sonder, qu'on est sincère, il nous sonde. Troisième application, demandons à Dieu la grâce de nous donner la force de changer ce qu'il y a à changer dans nos vies pour sa plus grande gloire. Notre grand et glorieux Seigneur est digne de notre plus haute adoration. Offrons-lui notre adoration la plus exaltée. Amen.
Amen.